Donc bienvenue dans l'Oratoire du Louvre, monsieur Régis Debray, grand bienvenue à vous. Alors je dois vous dire que c'est ce que je vous disais au début, j'étais impressionné de vous voir en vrai. C'est vrai qu'on vous voit en général à travers la signature de vos livres, quelquefois à la télévision, mais là on vous voit en vrai et c'est vrai que pour moi c'est intimidant. Bienvenue à Olivia Bell. Alors c'est vrai que on a une reconnaissance immense pour tout ce que tu nous apportes sans arrêt, donc ça rend pas moins intéressant le fait de t'accueillir. Et puis on est ravis d'avoir deux philosophes à cette table et deux philosophes qui sont en dialogue. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très stimulant. Donc merci à vous deux d'avoir cette dynamique finalement, d'avoir volontairement, délibérément, ce dialogue entre vous deux autour de cette question. Alors vous trouverez vos deux livres, vos deux derniers livres à tous les deux à la sortie. On en a pris une petite pile, il n'y en aura pas pour tout le monde en fait. Il y a donc le nouveau pouvoir que vous venez de publier, qui est vraiment, qui va avec cette conférence. Alors c'est un livre qui est stimulant, qui donne envie de réfléchir, d'ouvrir les yeux, de se poser des questions sur la politique, sur le monde, sur la religion aussi, en fait. Et donc, merci, vraiment. Et puis, le livre d'Olivia Bell, ce n'est pas en rapport direct ou directissime avec la question, bien que. Donc, c'est sur Pierre Bell. C'est un homme qu'on aime bien, évidemment, hein, Pierre Bell, dans notre protestantisme. Ça me permet de faire passer une petite annonce. Ça introduit un cycle de philosophie et théologie que vous avez créé avec Denis Guénoun et puis Philippe Gaudin, donc à trois philosophes, pour mettre en articulation la philosophie et la théologie. La première séance, c'est le 9 octobre prochain, sur Pierre Bell. Donc, merci Olivier pour ces deux tomes. Donc, merci à vous deux pour ce débat, voilà, que j'attends avec gourmandise et qui a déjà suscité dans Le Monde, dans Le Figaro et puis dans Réforme, qui est un peu partenaire voilà, de cette soirée, et bien des débats passionnants. Donc, merci à vous deux. Et on vous attend vraiment d'oreilles ouvertes.
Merci, Marc. Donc, on s'est dit qu'on allait converser ensemble jusqu'à 9h30. Donc, on arrête à 9h30, hein, à peu près. On est d'accord, Marc, hein, c'était ça qu'on avait dit. On verra en fonction de notre conversation si éventuellement il y a une place un petit peu pour du débat final, mais on est quand même nombreux pour discuter tous ensemble. Je ne sais pas si on pourra, on verra en fonction des évolutions. Moi j'ai prévu trois moments que j'ai écrits très en gros sur quelques feuilles parce que j'ai été opéré avant-hier de la cataracte. Et ne soyez pas vexés si je ne reconnais pas les meilleurs amis, c'est que juste que je ne vois pas grand-chose. Trois moments. Un moment dans lequel je vais pointer un peu les points d'accord que j'ai avec Régis depuis longtemps et qui me... pourquoi est-ce que je me suis si souvent appuyé sur sa pensée ? C'est depuis longtemps. Dès 1984, en arrivant à la faculté de théologie boulevard Arago, j'ai fait des cours sur lesquels je m'appuyais principalement sur la critique de la raison politique, par exemple. Je vais essayer d'expliciter ça. Un deuxième moment, autour justement du moment protestant, parce que Régis propose l'idée que nous sommes dans un moment particulièrement protestant. Alors pourquoi, comment ? Je voudrais discuter ça avec lui. Et puis un troisième moment, plus bref, peut-être, mais autour de Ricoeur, parce que justement il dit que Macron est significatif d'une génération Ricoeur en politique. Et je voudrais aussi discuter un peu cela. Voilà. Donc voilà les trois petits moments de ce parcours qui sont en fait complètement appuyés sur la lecture du nouveau pouvoir, donc et aussi par derrière du livre Civilisation chez Gallimard, qui est le livre précédent, le livre plus épais, dans lequel il avait déjà avancé une grande partie de ses thèses sur l'idée que nous sommes en train de nous américaniser et le protestantisme qui nous vient, c'est un protestantisme qui nous vient d'Amérique, c'est un autre protestantisme. Donc je pense, commence par les points d'accord et on va discuter à partir de ça. Premier point que je voudrais donc évoquer, la critique de la raison politique, 1980 je crois, c'est l'idée qu'il n'y a pas de rationalité sans irrationnel, ça va ensemble. C'est une idée très kantienne, en fait. C'est le principe d'incomplétude, d'une certaine manière. Mais en politique, par rapport à la raison politique, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique sans religion. Il n'y a pas de rationalité sans irrationalité. Il n'y a pas de politique sans religion, sans un fondement ou une transcendance, en quelque sorte. Il n'y a pas de clôture sans une ouverture extérieure. Par exemple, j'ai apporté, je ne vais pas le lire, mais toutes les pages extraordinaires que Régis avait écrites. Moi, à ce moment-là, j'étais professeur de philosophie à Istanbul. Les pages extraordinaires sur le complexe de Constantin. Comment tu racontes Constantin, comment Constantin a... En quelque sorte, il était une époque où il n'y avait plus que des dieux partout. Et Constantin fait le vide. Il n'y a plus de dieu sur la terre. Il y a un dieu complètement ailleurs. Il refait le vide et du coup, il restructure le pouvoir. Il restructure un politique extrêmement fort. Donc, je dirais que l'approche de Régis Debray est une approche de matérialisme religieux, on pourrait dire. La médiologie, c'est vraiment la religion, c'est aussi des canaux, c'est des canalisations, c'est des codes, c'est des credos, c'est des institutions, c'est matériel, c'est des liturgies, hein, c'est pas que des idées. Et c'est ça qui l'a intéressé, la religion en termes de médiologie, la religion comme lien et en termes de médiologie. Et donc la religion n'a rien à voir avec ce fort intérieur auquel Louis XIV avait déjà voulu réduire les protestants, disons-le, hein, et auquel Laurent Geoffrin, dans Libération, récemment, dans une petite chronique au sujet de ton livre, voulait justement dire la religion, ça serait bien qu'elle revienne au fort intérieur. Non, justement, il y a une dimension politique inévitable. C'est une lecture, peut-être que tu peux la discuter, mais il me semble que ce qui nous arrive à travers tout ça, c'est le passage du monde, quand même globalement, du monde de l'imprimerie, du monde du livre, au monde de l'Internet, des réseaux. Et donc, il y a une transition médiologique importante pour la civilisation. Parce que, d'une certaine manière, la com casse la transmission, la pub casse l'autorité, le réseau casse l'institution. Et ça me fait penser à Oulagou, c'est pas Oulagou lui-même, Oulagou c'est le petit-fils de Gengis Khan, vous savez. Quand les cavaliers mongols arrivent dans le croissant fertile, où depuis Sumer on avait cessé, les civilisations s'étaient succédées, mais on avait cessé d'augmenter les canalisations en poterie extrêmement fine, qui faisait de toute la région un jardin, et qui était le berceau de la civilisation, des civilisations successives, mais qui était quand même la même civilisation depuis si longtemps, y compris la grande civilisation arabe, Bagdad, etc. Eh bien, ils ont cassé les canalisations. Ils ont cassé toutes les canalisations. Et ce pays, ce jardin, est devenu un désert. Ils ont cassé la civilisation. Je veux dire, casser les canalisations, c'est grave. Donc, quand j'ai vu que tu parlais de casser les canalisations, je me suis dit, là, il touche un point extrêmement grave. Et c'est peut-être ça qui nous arrive aussi. Alors, en même temps, Régis Debray nous propose, dans les deux livres, Civilisation et Nouveau Pouvoir, une description très bienveillante, je veux le dire tout de suite, une description très bienveillante du protestantisme. Mais il distribue sa bienveillance, qui est une bienveillance descriptive, il ne s'engage pas, si j'ai bien compris. Une bienveillance descriptive, il la distribue de manière tout à fait équilibrée entre, d'une part, la défense et l'illustration, ou plutôt la description, mais bienveillante, d'un vieux protestantisme européen, lié à la modernité, et même, je dirais, français, parce que Calvin est un Français. Et donc, avec moi, si je peux dire, j'avais écrit un livre sur Calvin, Régis est prêt à s'écrier « Rendez-nous Calvin !» Bon, à s'écrier face à une civilisation américaine « Rendez-nous Calvin, vous nous avez volé Calvin !» Il faut dire que les Français n'ont pas fait grand-chose pour garder Calvin, et pour s'approprier Calvin, qui, à mon avis, fait partie de du patrimoine de la culture française. Donc, défendre ce vieux protestantisme face à un protestantisme américain qui nous revient par la mondialisation et qui est porté par la mondialisation et donc par ces réseaux dont je parlais tout à l'heure. Bon, donc là, on est du côté du vieux protestantisme. Mais il va plus loin parce que d'un autre côté, il dit « Oui, mais ce néo-protestantisme, le mot est très discutable, hein, parce que le néo-protestantisme, si c'est les baptistes, par exemple, ça, c'est aussi vieux que le calvinisme ou le luthéranisme, c'est très ancien, bien sûr. Mais ce néo-protestantisme, il est mieux ajusté aux défis post-modernes de la mondialisation, c'est-à-dire avec tous les côtés positifs, la pluralité, le primat du chant, de la voix, des réseaux horizontaux, la place de la femme, le sens du service. Dans les crises migratoires et les déplacements de population, le sens d'une religion portative, extrêmement légère, la chaleur émotionnelle, etc. Alors, il y a bien sûr des côtés aussi négatifs. Le fondamentalisme, l'exclusivité, le sens exclusif de la vérité, donc le mépris pour ceux qui ne partagent pas leur forme de foi. L'époque du témoin direct, hein, celui qui a vraiment eu l'expérience immédiatement lui-même. Le souci, moi j'ajouterais le souci de soi, le souci de son propre salut. Et puis l'idée, alors c'est vrai qui est l'idée de Max Weber, que la prospérité, c'est le signe de l'élection. Et on a maintenant donc des évangiles de la prospérité, etc. Ça, c'est des aspects négatifs. Ceci dit, le vieux protestantisme aussi a des aspects négatifs de complaisance à soi et de, je dirais, de mépris ou d'indifférence à l'égard de ceux qui ne partagent pas nos codes, si vous voulez. Mais il me semble que ce que tu proposes, c'est l'idée que tout cela nous apporte un réchauffement climatique. Hein, tu as dit ça de cette manière-là. Est-ce que ce n'est pas un réchauffement climatique pour vous ? Tu m'as dit un jour. Est-ce que c'est pas quelque chose qui... Et est-ce que même pour la... indépendamment de nous, je dirais, je ne sais pas qui c'est ce nous les vieux protestants, est-ce que ce n'est pas nécessaire dans la mondialisation d'avoir une religion qui soit en phase avec... C'est un problème politique, c'est un problème culturel, c'est un problème médiologique, qui soit en phase avec ces nouveaux réseaux. Parce qu'il faut bien... reconstituer une culture qui soit à l'aise avec ça. Et donc, peut-être qu'on a besoin, en effet, de penser la greffe de ce, entre guillemets, néo-protestantisme dont tu dis qu'il arrive dans nos banlieues sur notre vétéro-protestantisme. Voilà. Voilà, en quelque sorte, ma manière de voir ce que tu nous apportes depuis longtemps et récemment.
C'est toi qui m'apportes depuis longtemps, mon cher Olivier, parce que notre débat n'est pas égal. Tu es pour moi une autorité fraternelle. Je ne dis pas souveraine, hein, mais en tout cas fraternelle. Et en plus, tu as autorité parce que tu sais ce dont tu parles, alors que j'en suis beaucoup moins sûr, n'étant pas un spécialiste du protestantisme. Je n'ai d'ailleurs pas abordé dans cette petite brochure, Le Nouveau Pouvoir, je n'ai pas abordé, si j'ose dire, ex professo, une réflexion sur le protestantisme. Ce petit livre est extrait de cette revue Medium que je dirige et qui est un collectif, et on s'interrogeait sur la transparence. Et on s'interrogeait sur les techniques de la transparence, c'est-à-dire des nouvelles proximités qui effacent les frontières privées-publiques et... Tout d'un coup, je me suis dit, mais attendez, qui dit transparence dit tout de même protestantisme. Il n'y a pas que la technologie ici-bas. Il y a également une tradition spirituelle, morale. J'ai donc, je dirais, tout de suite pensé à Jean-Jacques Rousseau. La transparence est l'obstacle. J'ai donc tout de suite pensé à ce qu'avait apporté l'éthique protestante. D'abord en littérature, et puis évidemment dans l'ordre politique. Donc je ne me prétends pas du tout compétent pour parler de théologie, mais ayant évidemment un peu avant travaillé sur ce qu'on peut appeler l'américanité, c'est-à-dire une nouvelle structure de conscience et une nouvelle structure, je dirais, sociale. Les deux choses ont convergé, et grâce à toi, mon cher Olivier, puisque nous en parlions, tu m'as en quelque sorte ouvert un champ de réflexion sur lequel je suis tout nouveau. Alors, tu as parlé de la raison politique. C'est vrai que je me souviens que nous nous sommes vus à Istanbul. Je me demandais d'ailleurs qu'est-ce que faisait un protestant à Istanbul. J'étais très surpris.
Ardéchois.
Alors, je reconnaissais là la qualité de mobilité, de nomadisme du protestant qui a la faculté d'emmener son Dieu avec soi. Enfin, je ne vais pas vous faire tout un discours sur le Dieu portatif via la Bible. Mais, en tout cas, c'est vrai que nous avons communié, si j'ose dire, dans l'idée que là où il y a une frontière, il y a nécessairement une transcendance, c'est-à-dire qu'un ensemble ne peut pas se fermer sans l'intervention d'un élément extérieur à cet ensemble, qu'on appelle par convention une transcendance, et qui peut être un mythe, une mémoire, un texte, bref, une sacralité. Bon, ça, nous étions tout à fait d'accord. Mais tu as raison d'abord de parler de bienveillance. J'étais un peu surpris de voir que on me répondait comme si j'avais attaqué la confession, la religion protestante. J'étais très surpris d'abord parce que, comme vous le savez, un républicain est un calviniste imparfait. C'est-à-dire qu'il ne se consacre pas assez à la lecture, et il ne se consacre pas assez peut-être à une certaine fraternité. Bref, j'ai toujours eu plus que de l'estime pour ce qu'on doit, dans la tradition républicaine, à ces apôtres de l'éducation, car vous êtes un peuple d'élite, sûr de son méthodisme, et pas du tout dominateur, mais éducateur. Et vous avez éduqué les républicains, et on vous doit énormément. Donc je n'ai absolument aucune, je dirais, animosité, bien au contraire. Simplement, j'ai essayé d'articuler, je dirais, deux révolutions technologiques avec deux types de revival, enfin, ou plutôt avec l'instauration calvino-luthérienne du Sola Scriptura, 16e siècle, qui me semble lié à l'imprimerie. En ce sens, vous êtes les enfants de Gutenberg, par le Sola Scriptura, bien entendu, l'autorité souveraine de l'écriture, qui suppose que l'écriture soit accessible, qui suppose donc un certain Gutenberg. Et puis, me semble-t-il, il y a eu une deuxième génération qui ne sont plus les enfants de Gutenberg, mais les enfants de McLuhan, pour ainsi dire. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler... alors, les appellations sont diverses. Mais enfin, ce qu'on peut appeler le néo-protestantisme, qui est une formule, comme tu as raison de le dire, tout à fait inepte, parce que le protestantisme est néo par définition, puisque Ecclesia Reformata Semper Reformanda, il y a toujours du travail, et le protestant n'a aucune raison de ne pas protester, y compris contre les siens. Donc le néo est en quelque sorte intrinsèque, inhérent à la confession protestante. Cela dit, il y a tout de même, si j'ose dire, une nouvelle vague de néo qui me semble liée... non pas un retour à l'écriture, mais un retour au corps, à l'émotion, via le son, via la danse, via le protest song, via le swing, c'est-à-dire après la dévotion moderna, il y aurait une dévotion post-moderna qui correspond effectivement à un nouvel état des sensibilités, elle-même fondée sur un nouvel état des technologies. Bon, c'est en sens que peut se faire une convergence avec le monde américain dans la mesure où c'est aux États-Unis que se sont créés et que continuent de se créer depuis le début du XXe siècle et même avant avec la photographie que se sont créées ces nouvelles technologies. Donc après la centralité de l'écriture méditative est venue, je dirais, la centralité du témoignage émotionnel porté par ce nouvel état des lieux, ce nouvel état du monde, et donc je suis bien été forcé d'enregistrer qu'il y avait non pas une lutte, mais certainement un décalage. Et je ne m'étonne pas trop que s'il est vrai que même en Europe, la sociologie nous indique que le luthéro-calviniste est majoritaire. Dans la pratique, il me semble qu'on voit un dynamisme, un prosélytisme, un vecteur très fort dans le monde évangélique, et un vecteur dynamique qui sont les États-Unis d'Amérique. Et il y a tout de même à mon sens, un décalage. On peut avoir un étonnement. Ne serait-ce que politiquement. Je parlais hier avec Candido Mendes, qui est grand catholique, responsable au Brésil de la plus grande université privée, et il me racontait que le monde évangélique au Brésil est évidemment conquérant, mais qu'il est à la droite de la droite. Je n'ai pas l'impression que le protestantisme libéral ait été à la droite de la droite en France. Et c'est même très étonnant, n'est-ce pas ? Et on trouve un peu ce phénomène aux États-Unis aussi, n'est-ce pas ? Autour du Tea Party. Donc c'est un indice, si vous voulez, tout de même, d'un changement d'éléments. Alors, je ne dis pas que les canalisations ont été cassées, mais je dis que les anciennes canalisations se voient doublées par de nouvelles canalisations, et avec un transfert géographique qui est intéressant, parce que c'est, disons, par le biais du Sud, enfin, du monde négro-antillais, mais également du monde latino, que nous arrive...
Et asiatique, maintenant.
Et maintenant asiatique, avec la Corée, par exemple... que nous arrive une sorte de, je dirais, de peut-être de transmission, donc peut-être de trahison, mais en tout cas de continuation de l'impulsion protestante qui trouve comme un deuxième souffle, qui trouve dans un deuxième souffle, d'ailleurs paradoxal, parce que les tenants de l'Esprit Saint sont très portés sur le corps. Bon. Et beaucoup plus que sur l'écriture et sur, disons, la tradition rationnelle, réflexive, philosophique du calvinisme. Donc je t'ai interpellé là-dessus, tu m'as donné des points d'éclaircissement. C'est vrai que, étudiant le libéralisme mondialisé à travers ce que j'appelle l'américanité, j'ai bien été forcé de voir que ce libéralisme est tout de même protestantisé, si j'ose dire, à travers l'initiative individuelle, l'auto-entrepreneur du salut qui peut devenir l'auto-entrepreneur tout court, l'esprit de l'examen qui devient facilement l'esprit de libre entreprise. Tout ça a déjà été dit mille fois. Et j'ajouterais en plus que il y a, quand je dis... Souvent, on me dit, mais enfin, vous voulez que tout le monde soit néo-protestant ? Non, pas du tout. Je ne parle pas d'une confession, je ne parle pas encore moins d'un archipel d'église. Je parle d'un état d'esprit, d'une matrice, j'allais dire physico-spirituelle, d'une façon d'être, d'une façon de vivre le monde, moins un contenu de croyance qu'une manière de croire, qu'une manière d'agir, qui me semble effectivement puiser sa source au tout début dans la révolution luthéro-calviniste, et au fond, je me demande si ce, gardons cette expression de néo-protestantisme, ne vient pas en quelque sorte réparer, réparer certaines déficiences, certains manques, notamment la faible ritualité de... du monde calviniste, notamment, je dirais, un désenchantement du monde que viendrait réenchanter, n'est-ce pas, cette révolution dans la révolution, cette révolution dans la révolution calviniste, qui me semble tout de même avoir des conséquences à la fois géopolitiques, économiques, culturel, considérable. Voilà. Et là, je vous suis reconnaissant parce que vous avez reconnu, dont on en a parlé, que ça faisait problème. Et vous pouvez peut-être nous dire comment vous affrontez, enfin, si c'est un problème à affronter, ou comment vous le, comme on dit aujourd'hui, comment vous le gérez, ce problème, cet afflux de sang chaud, si j'ose dire, mais peu porteur de mémoire et encore moins de réflexivité.
Alors, d'abord, je pense que c'est très important que l'on comprenne que tu nous aides à ne pas faire de ce 500e anniversaire de la Réformation et de l'affichage des thèses de Luther simplement une commémoration, c'est-à-dire juste une la répétition, je dirais quasi identitaire, d'un geste ancien et fondateur. Etc. Non, tu nous aides, je pense, de manière très utile, à briser la complaisance aussi. Je veux dire, tu sais parfois avoir des formules qui nous flattent, disons-le, mais tu sais aussi avoir porté la question là où ça fait mal. Et donc, c'est important pour moi parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de retrouver les intentions, de mesurer que certaines des intentions ou des promesses de la réforme sont devenues des menaces ou sont devenues des promesses trop lourdes, et voir lesquelles peuvent être ou méritent d'être réouvertes comme des promesses inachevées qui ont encore un potentiel. Et donc de critiquer, je dirais, les résultats par rapport à des intentions qui restent vives. Je vais répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait avec l'apport de ce sang chaud. Hein. Mais c'est vrai que, d'abord, moi, je reconnais quelque chose pour moi-même, c'est que quelque chose de commun à ces deux protestantismes, c'est que moi, je dirais que le protestantisme est une... J'ai dit depuis longtemps que le protestantisme était une tradition auto-nettoyante. On ne cesse d'effacer les effets de traditionnalité. Ce qui, d'une certaine manière, allait avec la réforme, mais qui...
Et avec le présentisme, excuse-moi.
Et voilà, qui avait un côté magnifique et qui a aussi des côtés extrêmement dangereux. Voilà. Tout ça pour dire que là, les deux protestantismes sont très proches sur cet aspect-là. Sur la transparence aussi, je voudrais juste revenir un instant, parce que c'est vrai que par rapport aux images qu'on a du protestantisme, il y a toujours un bouger. Alors, les protestants, ils sont transparents, pas de rideau aux fenêtres, dis-tu, ou bien est-ce qu'ils sont dans la réserve, dans la discrétion, dans la pudeur, etc. On dit les deux. Et d'ailleurs, il y a les deux chez Rousseau. C'est justement tout le travail de Starobinski, de montrer la transparence et l'obstacle, justement. Et donc, ce que je dirais fondamentalement pour comprendre l'éthos protestant, c'est bien l'idée qu'il faut afficher. C'est ça, c'est le geste de Luther. Et on retrouve ça chez Calvin, sur les économies, etc. Il faut afficher ce qu'on croit, dire ce que l'on croit, faire ce que l'on croit, être bon, etc. Oui, il y a un souci de cohérence adulte, on va dire. Hein, bon. Et donc c'est un point, je crois, en effet très important. Mais se bouger dans l'image du protestantisme, on va dire d'un côté directement branché, les témoins immédiats, et de l'autre côté l'interminable herméneutique, interprétative, dans lequel on n'a jamais fini de corriger l'interprétation, ça paraît complètement contradictoire. Ou bien d'un côté, le moralisme puritain au sens de élisabétain, hein, au sens du 19e siècle. Hein, bon. L'austérité. Et puis de l'autre côté, l'immoralité, enfin, ou plutôt le libéralisme moral total des pays anglo-saxons sur plein de questions de bioéthique, on le voit tout le temps, et sur les questions conjugales, ou sur les questions de mariage, etc. Comment combiner ces deux choses ? Il y a le rationalisme dont tu viens de parler, la critique de la religion, qu'on trouve jusque chez Jacques Ellul, hein, la critique de vraiment la démolition de la religion, au nom de la foi peut-être, mais quand même la démolition de la religion, de la ritualité, etc. Et de l'autre côté, le prophétisme, l'émotion, le parler en langue, enfin tout ce que tu as décrit. D'un côté, les signes de l'élection, la prospérité, donc le capitalisme, et de l'autre côté, la révolution puritaine, alors là, la révolution anglaise de 1649, qui est vraiment égalitaire, les renters, les levelers, les diggers, on redistribue tout, abolition de la propriété, c'est vraiment la première révolution. En ce sens-là, c'est une parenthèse, mais on ne comprend pas la révolution française sans la révolution américaine, qui elle-même ne se comprend pas sans la révolution anglaise. Il y a une transition là qui est vraiment très importante. Et le côté du citoyen frugal et révolutionnaire, c'est Rousseau, mais ça vient de cette révolution anglaise, il faut le comprendre. Donc, pour moi, ce n'est pas une opposition massive, c'est plutôt une équation extrêmement complexe, chaque fois, entre ces deux aspects, transparence, opacité, et qu'il faut arriver à comprendre et qui est difficile à comprendre, je le comprends tout à fait, mais on ne peut pas les séparer en disant ils sont que transparents, ou ils sont que ceci, ou ils sont que cela, c'est un peu compliqué. Et alors, j'en viens à ta question, qu'est-ce qu'on fait avec l'apport de ce sang chaud? C'est toute notre question dans nos temples, c'est une question dans nos facultés de théologie. Notre faculté de théologie boulevard Arago, on peut le dire, elle est submergée de sang chaud. D'ailleurs, on le voit parce que lorsqu'on dit que Moïse, je me rappelle ma collègue, professeure d'Ancien Testament, Corinne Lanoir, qui dit en cours que bon, on n'est pas du tout sûr que Moïse ait écrit ses livres, ni même qu'il ait existé, on entend en cours quelqu'un, ouh, c'est chaud. Oui, en effet, c'est chaud. Pour des gens qui pensent que la Bible est directement, fondamentalement, une dictée de la part de Dieu, évidemment, c'est assez chaud. Donc, que c'est un livre entièrement inspiré, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est des problèmes de culture, de choc entre des styles, déjà. Profondément, c'est des styles de vie, des formes de pensée, des formes de vie, des formes de témoignage, des formes de foi, etc. Mais en même temps, on a foncièrement besoin les uns des autres, au sens simplement où il faudra bien cohabiter. C'est aussi un problème pour penser, et je pense aussi à la France de demain, en général. Dans la France de demain, il faudra bien que nos banlieues, moi je vois très bien à Nîmes, où il y a j'habite à Nîmes, hein, il y a une ségrégation entre le centre et la banlieue, et la périphérie, qui est incroyable. Il y a des gens que je vois passer devant chez moi, parce que j'habite juste à côté de la gare, mais il n'y a pas de connexion. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens? Et donc, je pense que nos banlieues, nous avons quand même un énorme problème en France avec nos banlieues, qui est un peu caché par notre jacobinisme, d'une certaine manière. Hein, pour moi, j'ai peut-être un débat avec vous, toi, là-dessus. Et donc, je pense qu'il nous faut absolument travailler à faire une émulsion entre ces populations humaines, qui sont écologiquement des colonies, si je peux dire, hein, des colonies, mais nous avons été des colons, ils ont été des colons, ils sont des colons, il n'y a que des colonies. Il faut les faire rentrer en émulsion un peu plus fine, et ça nous demande un travail de greffe mutuelle. Comment est-ce qu'on va greffer ça? Et là, excuse-moi, mais je dirais la première chose que je dirais, c'est, quand je vois la situation de nos facultés de théologie, la théologie, c'est des canalisations. C'est pour que l'énergie énorme de foi qu'il y a dans ces traditions religieuses, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient protestantes, néo-protestantes, si tu veux, pour qu'elles ne fassent pas tout péter, il faut bien les canaliser. Il faut bien qu'elles passent par aussi un travail d'instruction, un travail de différé, un travail de canalisation. C'est les institutions, c'est en effet le... Après, Ricoeur me disait, on ne comprend plus l'épaisseur des dogmes lorsque la foi a disparu. Mais quand il y avait la foi, il y avait besoin de dogmes très épais parce qu'il y avait besoin de canalisation épaisse pour canaliser cette énergie qu'il y avait dedans. Et c'est ça qu'on ne comprend plus après. C'est une réflexion de médiologie qu'il faisait là, à ce moment-là. Donc voilà, je crois que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Eh bien, il faut ouvrir la porte, je pense. Il faut le penser frontalement. Il faut le penser aussi comme, en termes de frontières. Il faut aussi le penser en termes de rapport de force, qui est aussi un problème démographique. Donc on a besoin de tout le monde pour nous aider à accueillir les nouveaux, si je peux dire, dans tous les sens. On a besoin de s'accueillir mutuellement, mais il faut être dans une proportion. Et je pense qu'on a besoin aussi du soutien des pouvoirs publics. Les facultés de théologie ne peuvent pas être des petits strapontins complètement écartés, cachés, etc., en dehors de l'espace public. Je te raconte juste une histoire. Un jour, on me téléphone de la télévision, ça m'est arrivé d'ailleurs trois fois. On me dit « Ah, Olivier Abel, on aimerait bien, pour un débat télévisé, avoir votre discours sur tel sujet. Mais il ne faudrait pas que ce soit vous, parce que vous êtes professeur dans une faculté de théologie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait le faire, qui pourrait dire un peu ce que vous dites, quoi? Tu vois l'état dans lequel nous sommes. C'est ça la laïcité aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que nous sommes actuellement extrêmement faibles face à ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est que la plus grande ville francophone du monde, c'est Kinshasa. C'est pas Paris. C'est plus Paris, c'est Kinshasa. Et cette ville, elle est majoritairement protestante. Ce qui nous arrive, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, demain? On ne peut pas tenir les frontières interminablement. Ou alors, il faut justement penser les frontières à l'âge de la mondialisation. Il faut repenser la frontière. Moi, je suis d'accord. Il faut penser la frontière, mais il faudra la repenser face à un défi gigantesque. Voilà un peu comment je vois le problème.
Écoute, j'enchaînerai sur ce que tu as dit. D'abord, en évoquant... les valeurs d'intériorité propres au monde protestant, qui ont ce site paradoxal qu'elles portent à l'extériorisation. C'est-à-dire, c'est une, je dirais, une intimité extime et littérairement très riche, évidemment, puisque ça a permis Benjamin Constant, Gide et Sartre, moi, en tant que littéraire, j'aime beaucoup cette extimité qui d'ailleurs vient de chez Rousseau, puisque la connaissance de soi exige d'être connue par les autres. Et donc, Rousseau souvent dit « Moi, je veux que mes amis me voient tel que je suis pour que je puisse devenir ce que je dois être. » Autrement dit, il y a toujours cette dialectique entre l'un et l'autre, et ça, c'est évidemment très riche. Après, tu as dit que qu'il y a beaucoup de contradictions dans le monde, notamment calviniste. Et tu as énoncé pas mal d'antagonismes sans ajouter en même temps. Bon, je vois que tu as une pudeur politique à employer cette expression. Mais il est vrai que, excuse-moi, mais comme dans toute confession, le calvinisme, c'est le pire et le meilleur. On est d'accord. Non, je dis ça parce que souvent, on a une vision très française de la tradition huguenote. Et évidemment, le huguenot est un minoritaire, persécuté, les dragonnades, etc. Mais enfin, quand vous regardez ailleurs, ce n'est pas le sentiment que les luthériens ont donné en Allemagne. Ils ont au contraire renforcé l'obéissance à l'État. Ce n'est pas le sentiment qu'on avait en Afrique du Sud, hein. L'apartheid, c'est calviniste. Les puritains du Massachusetts n'épousaient pas les femmes iroquoises. Autrement dit, on ne se mélange pas. Il y a aussi cette tradition d'année versus élu. Bref, c'est vrai que le « en même temps » peut aller du pire au meilleur, et je dirais du plus secret au plus... pas exhibitionniste, mais parfois démonstratif, peut aller, comme tu le dis, du rationnel au prophétique. Ça fait la richesse de ce monde, disons-le. Enfin bon. Et il faut tout de même, oui, se souvenir que le calvinisme n'est pas par essence persécuté. Il peut être persécuteur. Mais heureusement, il ne l'a pas été en France. Quant à cette montée d'une nouvelle énergie qui a d'autres codes que les vôtres, c'est effectivement un problème qu'on ne voit pas trop en France. D'abord parce que un islamiste avec sa toque et sa barbe, ça se prend en photo. Un pentecôtiste ou un évangélique, non. Et puis par ailleurs, les méga-churches, les hangars et les temples évangéliques, c'est plutôt en banlieue qu'à Paris. Et donc, nous n'avons pas bien conscience de cette montée. Vous êtes, vous, au contact. Mais nous, disons, en centre-ville, nous ne la voyons pas. Et on oublie que dans la Seine-Saint-Denis, il y a plus de protestants que de catholiques, numériquement parlant. Par la présence précisément des immigrés. Alors oui, je crois que tu as raison, les pouvoirs publics devraient compter sur vous, d'abord parce que vous êtes de très bons éducateurs, enfin depuis Comilieu, c'est très longtemps, vous savez faire, et puis vous avez ce privilège d'être en contact avec ces nouvelles populations immigrées, et d'avoir avec eux un langage commun, en tout cas un texte commun. Même s'il n'est pas interprété de la même façon. Et tu sais, Olivier, que là-dessus, c'est vrai, la laïcité dont vous êtes pourtant les promoteurs historiquement et dont nombreux sont les continuateurs, je me place parmi eux, la laïcité se voit aujourd'hui en butte à des résistances de l'État profond, ou peut-être de l'éducation profonde, puisque, je ne sais pas si tu es au courant, mais un instituteur près d'Orléans a été mis à pied, dénoncé par sa hiérarchie, parce qu'il avait ouvert une Bible en classe. Parce qu'il avait voulu répondre à des questions de ses élèves et qu'il avait fait deux ou trois cours sur des passages canoniques de la Bible, la traversée de la mer Rouge, etc. Lui-même n'est pas... En plus, il a été sanctionné et il est agnostique. Eh bien, le fait d'avoir ouvert une Bible, c'est incroyable. Pour vous dire où est-ce qu'on en est. Alors, Ceux qui, comme moi, ont prôné l'enseignement religieux dans l'école de la République se sentent un peu gênés devant ces choses-là. Donc j'ai été voir le ministre, etc. Mais je sens qu'il y a une résistance très sourde, sauf à Strasbourg. sauf dans les départements sous concordat. Mais tu poses un vrai problème, et c'est vrai que vous êtes... puisqu'aujourd'hui... Nos dirigeants sont des directeurs de ressources humaines, des DRH. Il faut leur mentionner que vous êtes là. Vous êtes une ressource disponible pour, pour intégrer tout simplement, ou coexister, ou favoriser la coexistence avec ce qui peut tourner au fondamentalisme. Car il y a aussi cela. Hein. Les catholiques sont intégristes, mais quand les protestants sont fondamentalistes. Et comme tu sais, nous, on est puni quand on sort la Bible, mais d'autres, aux États-Unis par exemple, peuvent être punis quand ils ne sortent pas la Bible et qu'ils enseignent le darwinisme. Ça fait partie de ce en même temps du monde protestant. Non, le fondamentalisme est un danger. Parfois même de nouvelles forces obscurantistes qui peuvent se lever de ce côté-là. Donc, lourde tâche, à nouveau, vous avez, acclimaté la République en France au 18e et 19e. Il faut continuer. Plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que... on doit pouvoir beaucoup plus compter sur vous, ne serait-ce parce que vous avez des occasions de rencontre que nous n'avons pas.
Tu as dit un certain nombre de choses très importantes que j'essaierai de prolonger plus tard, en dehors de cette conversation. Je reviens sur un mot que tu emploies dans le livre. Tu dis « nous étions catholiques ». Et bien sûr, d'abord j'ai envie de dire... Je pense qu'un certain nombre, Émile Poulain l'avait dit, je crois, il me semble, c'est une expression qu'il avait utilisée. En tout cas, c'est une expression que moi j'ai utilisée dans les années 80, je me rappelle, dans Libé, j'avais fait un papier en disant que finalement, il y avait quelque chose qui était en train de se faire, une sorte d'unité, d'unité catholique contre la pluralité, d'une certaine manière, contre la pluralité des traditions, des religions, des cultures. Alors, le côté catholique, c'est le côté plein, l'identité pleine. Le côté laïque, ce serait une identité vide, justement. Hein, il faut faire le vide. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de tradition. Mais finalement, ça, alors que c'était une image que j'avais longtemps portée au nu avec Claude Lefort, l'idée d'un vide central, soudain, je me suis dit, mais c'est trop facile et ça ne marche pas. Parce que s'il y a un vide, mais qui n'est entouré de rien, ça ne structure rien, pour revenir dans les termes de la critique de la raison politique. C'est bien le vide s'il y a une voûte, s'il y a une pluralité de pierres qui ont leur poids et qui s'entre-empêchent les unes des autres de tomber au milieu ou de prétendre être le pilier, d'une certaine manière. C'est ça qui crée une voûte, un espace structuré. Et donc, je pense que cette unité sans pluralité, c'est une identité mortelle. Et donc, il me semble qu'en 1905, la laïcité n'était pas catholique. On ne pourrait pas plus dire ça à ce moment-là. C'était difficile de le dire à ce moment-là. Elle était pluraliste, elle était ouverte. La laïcité est en train de devenir un principe de clôture, mais pas dans le sens que tu dis, de clôture au sens de clôture identitaire, de fermeture, un principe de l'identité. En gros, la laïcité est en train de prendre la place de ce qu'était le catholicisme de Maurras. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas croyant, mais le catholicisme, c'est la culture de la France. La laïcité, on se fiche complètement de regarder en détail ce que c'est. La laïcité, c'est l'identité de la France. C'est en train de devenir une identité. Et c'est pour ça que ça a été repris par le Front National, et c'est ça qui me semble tout à fait inquiétant dans la situation d'aujourd'hui. Mais je me demande si ce n'est pas parce que nous disposons, je reviens à tes hypothèses fondamentales, alors là on rentre dans la philosophie politique, mais aussi la théologie politique. Je reviens à tes hypothèses fondamentales de la critique de la raison politique. Est-ce que nous ne sommes pas en France, et Macron aussi, tu vois, c'est ça ma discussion par rapport à ton livre, est-ce que nous ne sommes pas en France captifs d'un théologico-politique du corps, le corps du roi, le corps de l'Église, le corps social ? le corps qui est un, qui est unique. Alors bien sûr, ça correspond à une, si je peux dire, à un logos qui est un logos vertical, hiérarchique, l'autorité, bien sûr, l'institution, mais dans un sens vertical. C'est le roi, c'est un père, c'est une figure paternelle, on a besoin de l'autorité paternelle. Et je me demande si la réforme, dans ses, non pas dans son intention, mais dans ses effets sociétaux, politiques, n'a pas, quelque part, travaillé à ouvrir un autre théologico-politique qui est aussi un théologico-politique, mais qui est un théologico-politique du pacte. Alors toi, tu parles de contrats, des contrats asociaux. Et donc, tu as une conception extrêmement critique à l'égard de la philosophie du pacte. Est-ce que ce n'est pas justement la vieille tradition, excuse-moi, la vieille tradition française qui réagit contre le monde anglo-saxon, mais quand tu regardes le covenant des pères fondateurs de Cape Cod, mais le covenant chez Milton, le covenant dans la Révolution anglaise, le covenant chez les pirates, moi j'ai beaucoup travaillé sur les flibustiers, sur la flibuste, il y a des covenants. Le covenant, c'est le droit de partir, c'est le droit de faire alliance, mais c'est le droit de rompre l'alliance. Eh bien, c'est un théologico-politique de l'alliance, de la nouvelle alliance. C'est très biblique, bien sûr. C'est une très vieille tradition. C'est une tradition qui date des sociétés de cueillette et de chasse. Le pacte, c'est fondamental. C'est une très vieille anthropologie. C'est pas du tout neuf. C'est une chose très ancienne. Et comme type de rapport que ça instaure, c'est un rapport, tu dis amitié plutôt que fraternité. En fait, j'aime bien dans l'idée de fraternité le fait qu'on ne choisit pas ses frères. On n'est pas dans le choix. Mais c'est vrai que la théologico-politique du pacte, elle est plutôt élective. On se choisit mutuellement. On se choisit mutuellement, c'est le côté Massachusetts, si tu veux. C'est le côté apartheid, hein, c'est le côté on s'est choisi mutuellement et donc il n'y a pas de place pour d'autres. Hein. C'est ça le danger que je vois, en effet. Mais c'est aussi l'idée d'un pacte conjugal. Hein. Ce n'est pas un modèle paternel, je dirais indissoluble. On ne peut pas rompre avec ses parents. Ses parents s'arrêtent, ne pas... C'est un pacte conjugal, droit du divorce, c'est Milton, droit du divorce, droit de rompre avec son roi, c'est la Révolution anglaise, toujours Milton, le grand poète de la Révolution anglaise, droit de quitter son église, c'est les puritains qui inventent la possibilité de sortir de l'église. Et finalement, Milton, à la fin, il avait été tellement sorti de toutes les églises qu'il n'était plus nulle part. C'est une invention extraordinaire, c'est un droit fondamental. Pour nous, ça nous paraît très fondamental, une sorte de liberté fondamentale. Mais pour Milton, c'était lié à une affectio societatis, pour reprendre ton mot, c'est-à-dire l'idée qu'il n'est pas bon d'être seul. On rompt un mauvais pacte, une mauvaise conversation, pour nouer un pacte dans lequel il y a de la conversation, dans lequel on est ensemble, dans lequel on se parle, et non pas juste parce qu'on est obligé de cohabiter, parce qu'on est sous l'autorité du père et qu'il n'y a pas de discussion. C'est pas une société du pas de discussion, c'est une société dans laquelle il y a de la conversation. Et donc le logos n'est plus horizontal, vertical, mais c'est la parole, c'est la conversation. Mais c'est un modèle très différent. C'est un modèle qui est moins romain, peut-être, au sens aussi de la continuité de la fondation romaine, territoriale. C'est un modèle qui est peut-être un peu plus grec, avec l'idée d'un archipel, de colonie, c'est plus maritime. Le monde protestant est un monde océanique, c'est pas un monde territorial. Mais ce n'est pas un monde apolitique. Je pense qu'on a trop facilement réduit le monde politique à un monde territorial et le monde océanique au capitalisme, si je peux dire, sans voir qu'il y avait dessous des modèles politiques et théologico-politiques qui étaient à l'œuvre. Voilà en gros ma discussion de ta thèse.
Alors là, on aborde les choses sérieuses. Là on ne va plus se faire des petits... Des petits signes d'entente, mais peut-être des signes de différence. D'abord, catho laïque, oui, effectivement, parce qu'en 1905, on était prioritairement catholique, on l'était depuis une quinzaine de siècles, et puis on avait un État depuis une dizaine de siècles.
Attends, quinzaine de siècles, qu'est-ce que tu racontes?
Nous
aussi, on
est... Oui, c'est d'accord. Dans la généalogie officielle, disons, d'accord. De la chrétienté papiste. Aînée de l'Église.
Bon. On nous a chassés des cathédrales.
Non, mais je suis d'accord. Il n'empêche que nous ne sommes pas un pays comme les autres. C'est-à-dire, nous n'avons pas un pays comme les autres pays européens. Nous avons une singularité qui est l'existence d'un État qui a... fabriquer, confectionner une nation. D'abord à travers une langue, ensuite à travers une monarchie absolutiste, c'est-à-dire qu'il a fallu un État fort pour se battre contre une religion forte. Il a fallu qu'un État se constitue pour empêcher l'Église catholique de diriger la société. Et comme cette religion était très forte, il a fallu un État très fort. Bon, cercle vicieux, peut-être, mais dialectique entre deux pôles qui sont forcés de se mettre au même niveau et d'utiliser même la violence, comme ça s'est fait en 1905, d'utiliser la force armée pour faire les inventaires dans les églises. Donc il y a eu une confrontation qu'il n'y a pas eu dans les autres pays européens. Puisque
une toute petite parenthèse, c'est ça, ma passion pour Pierre Bayle, c'est justement ça. C'est que Bayle, il essaye de penser ensemble la monarchie française, exactement dans le sens que je viens de dire. Ouais. Parce qu'il faut résister, il faut être au-dessus, il faut un pouvoir très fort pour résister à la majorité dangereuse. Ouais. Mais en même temps, comme il est aux Pays-Bas, il est dans le port de Rotterdam, il voit les dissidents de tous les pays, donc il est touché par ce modèle extrêmement libéral qui est en train de se produire. Et donc, ce modèle républicain, on va dire républicain, fédéral, d'une manière.
Oui, mais alors... Voilà.
Et donc, il essaye de les penser ensemble. C'est ça, c'est son paradoxe et c'est sa difficulté. Mais juste pour dire que je suis très sensible à ton argument.
Quand je parle d'une singularité française, je peux parler d'un handicap français, parce qu'il est évident que dans les pays voisins d'Europe, les Lumières n'ont pas été anti-religieuses, puisque portées par le protestantisme et le livre Examen, des gens comme Pierre Bel, que tu connais bien, et d'autres, les Lumières, enfin, n'ont pas été anticléricales, comme elles ont dû l'être en France, nécessairement, par cette tradition catholique. On ne peut pas faire autrement. C'est notre histoire et donc ça explique peut-être que la laïcité, effectivement, a ce côté dogmatique, doctrinal, vertical, autoritaire, effectivement, parce qu'elle est liée, aux obligations d'un combat qui a été très dur et qui l'est aujourd'hui beaucoup moins. Donc ça, je dirais que c'est... Admet que chaque pays a un ADN et qu'il ne le choisit pas.
Absolument.
Il ne le choisit pas. Bon. Alors, ensuite, tu nous parles du pacte. Il y a d'abord le pacte sous forme de l'alliance entre un peuple élu et Dieu. Mais de cela est né quelque chose comme un juridisme, et effectivement... tu as parlé du monde américain, tu as parlé du pacte et du compact, du Cap Cod, 1610 ou 1620, où effectivement 111 personnes font un pacte entre elles. 111 dissenters. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une date de départ absolue. On s'enfante soi-même. On s'auto-institue. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé les ponts. On est dans une terre promise, donc une terre vierge. Donc effectivement, il y a une sorte de créativité, une sorte de fiat lux à partir d'une décision, d'une volonté qui unit des individus, mais parce que ils n'ont pas derrière eux le poids d'un État ou d'une tradition religieuse, dogmatique. Et c'est une empreinte qui fait qu'aux États-Unis, je dirais dans le monde américain, il y a, je n'ai pas les statistiques, mais il y a par 10 000 habitants, 5 fois plus de professions juridiques qu'en France. Parce que le monde, ce qui correspond chez nous aux fonctionnaires correspond chez eux à l'avocat. Donc la prospérité des avocats d'affaires...
Mais alors nous, on a beaucoup plus de fonctionnaires qu'eux.
Pardon ?
Nous, on a beaucoup plus de fonctionnaires qu'eux.
Oui, parce qu'on a un État.
Oui, mais justement...
Et eux n'en ont pas besoin. C'est une fédération et...
Qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire par rapport à la loi ? C'est quelle conception de la loi qui est inscrite dans...
Tu vois, écoute, ce que je veux dire, c'est que dans... Pour un peu une typologie un peu simpliste... quand tu arrives dans un bled du Massachusetts, tu as deux points clés dans le village, c'est le temple et le drugstore, d'accord ? Chez nous, tu as deux points clés, c'est l'école et la mairie. À la mairie, il y a des fonctionnaires territoriaux qui font respecter la loi, qui font des règlements. Et à l'école, on essaye d'enseigner non pas la religion, mais d'enseigner peut-être aux enfants à se passer de religion, c'est-à-dire au fond à penser par eux-mêmes, à se quitter leur famille. Voilà, au fond. C'est vrai que l'école est une vaste conspiration contre les familles. Alors qu'aux États-Unis, c'est la continuation de la famille. Donc là, il y a la primauté du juge. C'est vrai que nous, la figure de l'autorité, c'est le père, tu l'as dit, ou c'est le savant, ou c'est le leader, mais pour qu'il y ait un leader, il faut un peuple. Bon, il n'y a parfois plus de peuple. Donc, c'est vrai que l'idéal protestant de l'autorité, c'est le juge. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le pasteur et les juges partagent le même...
Un avocat.
Le même, oui, partagent un rabbin, voilà. Chez nous, le juge, ça marche pas. On a des traditions assez fâcheuses quant à l'indépendance de la justice. Et donc, peut-être qu'à un moment, nous sommes dans un moment où il n'y a plus de juge et plus de pair. D'embêtant. Et c'est pourquoi cette exaltation que tu as du contrat, c'est-à-dire de l'accord délibéré, librement passé entre deux individus, qu'on juge abstraitement égaux alors qu'ils sont dans un rapport de force, le patron et l'ouvrier sont dans un rapport de force, hein, et le chef d'entreprise n'a pas... ne peut pas négocier d'égal à égal avec son ouvrier, mais on fait abstraction de ça, on fait comme si ce rapport de force n'existait pas, et il signe un contrat, non pas dans la branche, mais dans l'entreprise. Voilà. On essaye de contourner le syndicat. Bon. Je voudrais juste dire une chose pour terminer. C'est que ce modèle américain ne marche pas en France et ne marchera jamais en France. Et c'est là où nos dirigeants actuels se mettent le doigt dans l'œil. Parce qu'ils ignorent tout de l'histoire de France.
Oui.
Ce sont des économistes qui n'ont de rationalité qu'économique et qui ne savent pas qu'un pays, c'est aussi une tradition collective. Ce sont des siècles, ce sont des structures mentales. Et juridique qui fait que, par exemple, aux États-Unis, on peut se permettre de tout miser sur le contrat parce qu'il y a une religion biblico-patriotique commune à tout le monde.
D'accord.
C'est ça ce qui empêche la guerre des races et la guerre des classes. C'est qu'il y a sur le billet « In God we trust ». D'accord. Prends un billet d'euro, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est un billet de monopoly. Bon, il n'y a aucune devise, aucune figure, rien. Il n'y a que des abstractions. Donc, si tu n'as pas ce ciment-là, et ça, c'est ce que les libéraux français ne peuvent pas comprendre, ils veulent absolument importer le modèle américain, mais on ne peut pas importer une tradition religieuse, ce serait bien. Autrement dit, un peuple de Dieu, c'est Rousseau, je crois, qui disait « seul un peuple de Dieu pourrait être démocrate ». Moi, je dirais que seul un peuple de protestants pourrait être démocrate.
Non.
Mais ça ne marche pas. Chez nous, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que tu as un État qui est né il y a très longtemps, et tu as cette empreinte catholique, et puis tu as la Révolution française, mon vieux. La Révolution française, c'est pas la conversation. La Révolution française, c'est la confrontation.
Ah, mais attends,
et je sais que c'est un problème, mais c'est vrai que nous avons une propension, je dirais, au rapport de force, à l'imposition, à la violence, au défilé de rue, que je ne vois pas à Stockholm ni à Oslo, figure-toi. J'ai souvent été en Scandinavie et c'est pas le même pays. C'est pourquoi ceux qui veulent nous vendre un monde scandinave sont de pauvres économistes qui devraient faire de l'histoire et de la géographie.
Quand tu rencontreras des Drakkar pendant des siècles, tu changeras peut-être
d'opinion. Oui, mais enfin, on les a foutus dehors. Bon,
ils sont là partout. Non, ce que je vais dire quand même une chose. D'abord, l'alliance, c'est vraiment au contraire un concept extrêmement guerrier. Le pacte guerrier. Regarde, lis les premières phrases de l'Iliade. Le circuit des chefs, c'est pas de la conversation, c'est de la dispute de chefs. Et ça va s'amener dans le... Et la Révolution anglaise, excuse-moi, a fait beaucoup plus de morts que la Révolution française. C'est une guerre civile épouvantable. Donc, je sais pas pourquoi tu fais du pacte...
Non, parce que tu as employé la conversation comme un idéal. Idéal de civilisation, oui, bien sûr. Non. Seulement, non, ce que je veux civiliser, il y a beaucoup de
sauvagerie. Je veux dire, c'est deux conceptions du logos différentes. C'est ça que je parlais de conversation. Et puis, alors, par rapport à un point très important, en effet, moi, je pense que l'imaginaire protestant, des dissidents protestants qui sont partis ailleurs, ils sont partis un peu comme Robinson Crusoe, que sur une page blanche, une plage blanche, vide, comme nouveau territoire, rien, abolition. Et toutes les colonies, que ce soit aussi les colonies françaises, en Nouvelle-Calédonie, anglaises, partout, espagnoles, sont partis de cette idée que, table rase, on peut abolir tout ce qui précède. Si on lit Calvin, par rapport au concept d'alliance, la nouvelle alliance n'abolit pas l'ancienne alliance. Les calvinistes n'ont jamais lu Calvin. Le calvinisme, je dis dans mon livre, c'est l'addition de tous les contresens qui ont été faits sur Calvin. Tout le calvinisme, c'est vraiment des contresens sur Calvin. Il faudrait relire Calvin. Donc ça, c'est un point très important. Il n'y a pas d'abolition. Au contraire, toute nouvelle alliance ne fait que réinterpréter des alliances antérieures. Et si on ne comprend pas ça, on n'est pas capable, en effet, de faire un pacte. Un pacte, ce n'est pas un pacte qui est aboli. Et donc, il y a bien, et c'est là que ça touche en effet la culture juridique. La culture juridique, c'est Dworkin l'a montré, c'est justement la culture juridique américaine, anglo-saxonne, c'est qu'à chaque fois, on ajoute un chapitre. Donc, on n'abolit pas le chapitre précédent, on ajoute des chapitres les uns aux autres qui peu à peu s'orientent et qui font une construction qui a sa souplesse, mais qui a aussi sa rigidité et ses rigidités. Ceci dit, tout ce que tu dis sur la France, le fait que ça ne va pas marcher, je suis absolument d'accord avec toi. C'est ce que disait Jean Carbonnier. Jean Carbonnier, qui est un grand législateur protestant pour un pays catholique, il disait non, on ne peut pas, il ne faut pas croire qu'on puisse importer, par exemple, le divorce. Il faut commencer par la séparation de corps. On est dans un pays catholique. Il a rédigé les lois du divorce en créant la possibilité de la séparation de corps, qui semblait une hypocrisie, d'une certaine manière, pour un protestant. Mais il fallait le penser comme ça pour un pays. Donc, les codes, en effet, ont une vitalité, une durée, à la fois archéologique, mais durable, dont il faut absolument tenir compte. Je suis absolument d'accord avec toi.
Non, mais ce sens, disons, du réalisme, aussi bien économique que politique, c'est effectivement un mérite protestant. Je pense à Michel Rocard, si tu veux, dans ses façons de négocier, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, tout à fait, nouvelle alliance, ancienne alliance avec le monde mélanésien, et ce sens, oui, ce sens de l'arrangement, de la transaction, est quelque chose de très heureux, parce que ce n'est pas tellement dans l'esprit français, enfin dans l'esprit, je dirais, catho-marxiste, pour aller vite, où il y a lutte d'intérêts, et donc radicalisation, et donc montée aux extrêmes. Donc c'est vrai que là-dessus...
Et c'est là que peut-être, d'ailleurs, si tu lis... Tu rapportes un peu Luther et Calvin à la tradition augustinienne. Hein, dans ce...
Augustinienne, tu veux dire ?
Oui, augustinienne. Qui est quand même une tradition politique extrêmement pessimiste, qui insiste sur, justement, on peut dire, la culpabilité individuelle, etc. J'ai envie de dire, là, je pense qu'il faut voir aussi qu'il y a, chez les réformateurs, au contraire, la rupture avec un augustinisme, avec un certain augustinisme, l'ordre de la création n'a pas été aboli par la chute. C'est un récit très ample dans lequel il y a l'ordre de création est maintenu. Il y a un autre chapitre qui est la chute, mais c'est un autre chapitre et la création n'est pas abolie. Et on le voit très bien, il y a l'idée qu'il y a des lumières naturelles qui demeurent. Ça, c'est ce que une certaine théologie protestante a voulu gommer complètement, radicalement, en disant non, il n'y a pas de théologie naturelle, il n'y a pas de lumière naturelle, Mais on le voit très bien chez Bayle, par exemple, on le voit très bien chez. Donc, c'est plus compliqué que l'augustinisme radical, un peu sombre, un peu, etc. Et d'ailleurs, ça se voit très bien au fait que c'était Pierre-François Moreau qui m'avait rendu attentif. Tu vois qui c'est Pierre-François Moreau, un philosophe politique, spécialiste de Spinoza et de Hobbes, et qui m'avait dit oui, mais chez Calvin, il avait beaucoup lu Calvin. C'est lui qui m'a dit, tu es professeur d'une faculté protestante, il faudrait quand même que tu lises Calvin, il y a longtemps. Et il disait, mais en fait, le magistrat, il est chez Calvin, il n'est pas seulement là pour punir, pour préserver l'ordre, il est là aussi, il est ordonné par Dieu pour le bien des humains. Donc une conception positive, une conception optimiste. Alors là, c'est là qu'on rebascule dans un débat avec Machiavel. Je pense que Calvin, par rapport à Machiavel, si tu veux, Machiavel, c'est quand même... J'adore Machiavel, il est génial. Je vois que tu es extrêmement marqué par sa pensée et par... Oui. Non. Ben si, tu peux pas le nier.
Ne le renie pas du tout.
Non. Et par, j'irais l'esthétique florentine, comme tu en parles, contre justement l'esthétique stockholmienne. Bon. Mais je pense que le rapport à Machiavel, il faut le compliquer aussi. Il faut dire oui à Machiavel et non à Machiavel. Oui à Machiavel parce que il y a des moments où, en quelque sorte, en effet, il y a un écart total entre l'éthique et le politique. C'est vrai. Mais il y a aussi des fois où l'éthique peut, de l'intérieur, orienter le politique. Il y a des situations, disons, de démocratie ordinaire où il n'y a pas une telle rupture entre la morale et la politique. Et il fut un temps où nous souffrions de la confusion hypocrite entre la morale et la politique, et donc il fallait marquer cette rupture. Merleau-Ponty nous a aidés à le faire. Bon. Mais aujourd'hui, nous souffrons aussi un petit peu, et c'est ce que disait Ricoeur, de l'excessive séparation de la morale et de la politique, sans voir qu'il y a aussi des intersections. Et Ricoeur est très, très équilibré. Il dit, d'une part, on passe à Ricoeur, et puis on va terminer par là, si vous êtes d'accord. Ricoeur, il ne faut pas faire l'alternative entre soit on est politique, à ce moment-là, on n'est pas moraux, soit on est moraux, à ce moment-là, on n'est pas politique. Je pense que cette alternative, elle est trop dure. Hein. Bon, je pense que, non, il y a un temps, je dirais, d'intersection entre les deux, dans lesquels on peut infléchir de l'intérieur le politique en y introduisant des exigences éthiques, qui sont des exigences de justice sociale, de solidarité, des exigences, c'est pas seulement de transparence. Hein, genre, la morale individuelle, on est en politique quand même. Pour moi, c'est absolument pas. Je suis très français de ce point de vue-là. Pour moi, c'est pas fondamental. Même si je pense que quand même, il y a une cohérence. On peut pas faire le contraire de ce que l'on annonce et de ce que l'on demande aux autres. Là, je pense que pour les politiques, il y a une responsabilité politique qui demande un minimum de cohérence. C'est là que je dirais la morale. Elle est elle-même politique, cette morale. Mais donc, dans la démocratie ordinaire, on peut être à la fois dans le politique, en soutien, en essayant d'infléchir de l'intérieur, et un peu de l'extérieur pour résister, pour protester, pour corriger le tir. On peut tenir les deux bouts en même temps. Les deux reines, la reine de l'orientation de l'intérieur du politique et la reine de l'extérieur de la protestation et de la résistance. C'est exactement ce par quoi Ricoeur termine un grand texte intitulé « Le paradoxe politique » au moment du coup de Budapest, un texte dans lequel il réfléchit sur le fait qu'il y a un paradoxe politique dans lequel il y a à la fois une rationalité politique et une irrationalité politique. C'est ça qui m'a prédisposé à lire la critique de la raison politique. C'est un texte qui avait été très important pour moi. Mais donc, dans la démocratie ordinaire, de tous les jours, on peut être à la fois ceci et cela. Mais c'est vrai qu'il y a des... Et ça demande le respect mutuel. Il y a du respect. Le respect, je me rappelle, en 1981, juste avant l'élection de Mitterrand, tu avais écrit dans Le Monde une tribune dans laquelle tu appelais les uns et les autres au respect. Je me rappelle très bien ce texte magnifique. Sur une passion politique, la passion du respect. C'est-à-dire, on fait avec ce qui est là, ce que tu viens de dire. On fait avec ce que nous sommes. Il ne faut pas faire des plans sur la commune. Mais aussi, on fait avec la parole de l'autre. On fait ensemble. Bon, j'interprète peut-être ce que tu voulais dire. Mais en même temps, il y a des moments où il y a au contraire des ruptures. Et alors là, on rentre dans une éthique de, Ricoeur dit, de détresse. Il est très proche de Merleau-Ponty, en fait, là-dessus. C'est-à-dire, on rentre dans le tragique, dans lequel, par exemple, les insoumis, au moment de la guerre d'Algérie, il n'y avait pas de bonne solution. Soit on était soldats et on pratiquait la torture, soit on était insoumis et c'est comme si on avait, disait Ricoeur, accepté que notre État soit détruit. Et est-ce qu'on peut accepter que notre État soit détruit ? Ricoeur, qui a vu son État détruit en 1940, qui est resté prisonnier 5 ans pendant la guerre, a mesuré la gravité de sa non-violence de jeunesse. Hein, c'est un protestant, son père était mort à la guerre, il était né, grandi, pupille de la nation, il avait grandi dans une protestation non-violente, Sacco e Vanzetti, etc. Et il a mis du temps à comprendre. Pourtant, il y avait des amis autour de lui. Il y avait Philippe, comment il s'appelle, son prénom. Pardon. André Philippe, merci.
Ah, oui.
Il y avait André Philippe, qui était un grand ami de Ricoeur des années 33, qui disait « Non, Paul, tu te trompes. » C'était les Barthiens d'Allemagne qui l'avertissaient que Hitler, c'était l'horreur. Et lui, il ne voulait pas en croire. Il disait « Non, l'Allemagne a été humiliée. » il faut lui accepter, etc., etc. Et puis en 39, c'était trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans ces textes intitulés « État et violence » et d'autres textes, il dit non, derrière l'État le plus démocratique, il y a de la violence, et il faut résister à ce qu'il appelle la tentation terrible de la bonté. Il faut donc penser une démocratie armée. Voilà, notre problème, c'est comment penser en même temps une démocratie ordinaire, dans laquelle on peut, je dirais, tenir les deux bouts des deux rênes dont je parlais tout à l'heure, et en même temps accepter qu'il y a parfois une démocratie armée. Et je pense que si on pense uniquement à une conception, je dirais, machiavélienne, dans laquelle, de toute façon, c'est le prince, il est lion et renard, il est ruse et violence, d'une certaine manière, en face, il y aura de la lâcheté, et de l'imbécilité. C'est ça le problème. S'il n'y a que de la ruse et du mensonge, il n'y aura plus, peu à peu, que comme passion politique, que la peur. Donc il faut aussi faire crédit un peu de l'intérieur à la positivité du politique. C'est ça, à mon avis, qui manque chez Machiavel. Une théorie du magistrat, et pas seulement du prince.
Mais écoute, voilà qui est très impressionnant. Moi, je vote pour. Tout de même, petite remarque. Luther était un moine augustin, et Calvin lisait beaucoup Augustin, comme tu le sais mieux que moi. Et il y a chez Augustin quelque chose qui, à mon sens, s'est transmis à la pensée protestante des origines, c'est la culture de la culpabilité. Alors c'est vrai qu'elle peut laisser peut-être certaines lumières naturelles prospérer, c'est une façon peut-être d'autonomiser la sphère du monde séculier, mais c'est une angoisse. Alors tu m'as fort bien expliqué que le protestant n'était pas condamné à l'angoisse, puisque il pouvait faire de l'absence de souci de son salut, si je t'exprime bien.
Hein, très bien.
Reste tout de même.
Que... En fait, il faut le confier à Dieu, c'est la découverte de Luther.
Voilà.
Il est tellement angoissé qu'il n'en peut plus, et ouais, c'est ça la découverte géniale de Luther. Il faut confier ce souci à Dieu, simplement.
Ouais. Reste tout de même des incertitudes et...
En principe, pas chez les protestants, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette passion du salut chez les protestants. Je ne le comprends pas.
Et les incertitudes peuvent être tempérées ou en tout cas guéries par la réussite matérielle. On ne va pas reprendre les vieux arguments de Max Weber, mais qui restent vrais, me semble-t-il. Et puis aussi, il y a un autre trait de l'augustinisme, c'est qu'il faut que le pouvoir public vienne au secours de l'autorité ecclésiastique. En sorte, Calvin, à Genève, il n'a pas hésité à joindre, je dirais, l'usage de la force et de la violence d'État pour maintenir l'orthodoxie.
Oui, mais...
le bien s'exprime dans le droit. Le droit s'articule à Dieu, et qui ne respecte pas le droit refuse Dieu, injurie Dieu et finit sur un bûcher. Bon, je ne vais pas vous faire le coup de Michel Servet, on vous l'a servi plusieurs fois. Mais tout de même, je dis que l'augustinisme me semble être en fond de teint tout de même, et pourquoi pas. Chez Pascal aussi. Chez d'autres aussi. Alors maintenant, ce que tu dis de Ricoeur est évidemment très intéressant, en ce que on peut dire qu'il a pris suffisamment au sérieux la complexité du politique pour sortir de l'éternelle antithèse Sciences Po, éthique de responsabilité, éthique de conviction.
Voilà.
Il nous a permis d'articuler les deux et de sortir de cette alternative, de ce dilemme un peu facile. Donc il a produit de l'éthique. Mais tout le XXe siècle, je dirais tout le XXe siècle religieux, est sorti de l'ontothéologie à la Saint Thomas pour faire de l'éthique, c'est-à-dire que ce soit... Chestov chez les orthodoxes ou Lévinas chez les juifs. C'est vrai, le retour à l'éthique, c'est-à-dire à l'intersubjectivité, à l'invention d'une voie qui n'est pas morale, c'est-à-dire qui n'est pas obéissance à un code de normes abstraites, mais invention de soi par soi. Bon, tout ça, c'est effectivement le mouvement du temps que Ricoeur a parfaitement articulé. Mais, bon, il avait suffisamment, disons, le sens du politique pour, par exemple, accepter une présidence d'université, qui est un rôle politique.
Et même, il aurait accepté d'être ministre de l'Éducation nationale, si Edgar Faure avait été Premier ministre, tu sais. Pourquoi ? Parce qu'il aimait le conflit, Ricoeur. Il aimait le conflit. Il aimait le dissensus. Il pense que l'histoire, elle est jusqu'au bout, jusqu'à la fin, du dissensus.
Et pourquoi il quitte la présidence de Nanterre quand le ton monte et quand les bagarres augmentent entre policiers et étudiants ? Il part.
Simplement, c'est parce qu'il ne peut plus gouverner. Il ne peut plus gouverner. Il n'a pas les moyens de gouverner. Des deux côtés, on lui refuse les moyens de gouverner. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas gouverner. Au contraire, c'est parce qu'on lui refuse les moyens de la gouvernance.
D'accord.
Mais je vais dire une chose. Je peux te lire un instant un texte extraordinaire, très théologique. Donc tu as raison, ça vient de la théologie. Cher Ricoeur, une fois n'est pas coutume, parce qu'en même temps, je tiens beaucoup à la séparation, cher Ricoeur, du théologique et du philosophique. Elle est très, très forte, elle est très marquée. Il a une capacité à séparer les choses qui est absolument étonnante. Mais là, c'est un texte qu'il fait pour une grande assemblée, 300 personnes du christianisme social. Et c'est un texte dédié à son fils Jean-Paul et à sa femme Françoise, d'ailleurs. Et il dit... Les pères, il parle des pères grecs. Il est en train de relire les pères grecs, Irénée, etc., etc. Donc, par-dessus Augustin, par-dessus l'épaule d'Augustin, il va chercher plus loin. Et il dit, les pères, précisément, savaient que l'homme est indivisément individuel et collectif. Ils savaient, comme qu'Adam veut dire l'homme, anthropos, non pas un singulier monsieur très ancien, tout seul avec sa femme dans un jardin, et qui aurait transmis par voie de génération physique sa méchanceté très singulière et très privée. Ils étaient capables de se représenter un singulier collectif, un individu qui vaut un peuple, un collectif, etc. Et donc, justement, il va montrer que le péché, la déchéance, elle est collective, elle traverse les institutions. Il y a une déchéance, il va prendre la trilogie des passions de Kant, une déchéance du politique, une déchéance de l'économie, une déchéance de la culture. Le péché, il n'est pas moral, il est collectif. Enfin, ça, c'est un texte de Ricoeur qui est tout à fait non-augustinien, si tu veux, tu vois.
Chez Augustin, le péché est collectif. Il affecte l'humanité en tant que telle.
Non, mais collectif dans un sens...
institutionnel.
Mais non, c'est le péché... Attends, c'est le péché originel. C'est un concept presque génétique, d'une certaine manière. Ce n'est pas collectif au sens politique. Il ne s'agit pas des institutions. Mm-hmm. Tu vois, c'est ça qui est différent.
Mm, d'accord. D'accord. Mm. Et alors, donc, tu crois que Ricoeur peut avoir une postérité politique?
Je pense qu'il mérite d'être ouvert par son sens de l'institution, par son sens. Oui, je crois qu'il y a des choses à en tirer qui sont plus équilibrées, qui, en effet, peuvent apporter, notamment dans ce dialogue des cultures et des civilisations. On va terminer par là. Tu insistes dans ton livre « Civilisation » sur cette situation de la mondialisation. Ricoeur, dans un texte encore antérieur, disait qu'il parlait des noyaux éthico-mythiques qu'il y a dans chaque culture et qui sont ces noyaux vivants. Et ces noyaux peuvent mourir. À ce moment-là, il ne reste plus qu'une coque vide, en quelque sorte. Le noyau éthico-mythique de chaque civilisation, de chaque culture, de chaque peuple, demande... Enfin, c'est un cœur qui bat, en quelque sorte. Et pour qu'il soit vivant, eh bien... il faut qu'il soit capable de se confronter, d'une part, à tous les progrès de la rationalité, des sciences, etc., etc., et de s'y acclimater. On pourrait dire aussi au progrès des médias, enfin tout ce que tu as dit au début. Mais aussi, il faut qu'il puisse rencontrer les autres. Et pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut avoir un corps, comme tu disais. Il dit, c'est un texte de 46, de 47, « Je fais corps avec ma culture, avec ma civilisation, comme j'ai moi-même un corps. » Ça veut dire, modestement, j'accepte d'avoir un corps, j'accepte d'avoir une identité, j'accepte d'avoir une culture. Et parce que j'ai une culture, je peux rencontrer une autre culture. Et pour rencontrer une autre... je découvre que j'ai une culture, que j'ai une tradition, que j'ai une identité, une civilisation parce que je rencontre d'autres que moi. Donc, d'une certaine manière, la mondialisation, ce n'est pas le naufrage de ces cultures. Mais ça demande des conditions et des conditions extrêmement exigeantes. Je pense que ça, c'est un point aujourd'hui qui nous manque. Ricoeur décrivait un monde de ce qu'il appelait de touristes. Il dit on est dans le monde du tourisme, une époque de touristes, c'est-à-dire c'est le nihilisme planétaire, il n'y a plus que des autres. Il n'y a plus que des autres. Personne ne dit je. Voilà, je suis là où je suis. Je ne dirais pas ça de toi, hein, tu vois, tu nous as bien montré que justement c'est. On existe, on a un code, on a une langue, on a une histoire, on fait corps avec ça. Mais justement, dans un monde où il n'y a plus que des autres, eh bien justement, c'est la fin, c'est la mort des civilisations. Donc je pense que de ce point de vue-là, il est assez proche de toi. Je pense que c'est une condition extrêmement importante à mettre en exergue de toute prétention à l'ouverture. Puisqu'on parlait de Macron, l'opposition entre l'ouverture et la clôture, eh bien justement, ce serait un peu simpliste de le voir comme ça. Il n'y a pas de clôture, d'ouverture s'il n'y a pas une clôture, s'il n'y a pas une modestie, s'il n'y a pas une finitude, s'il n'y a pas...
Oui, avoir un soi, mais pas trop tout de même. Il me semble que Ricoeur avait une capacité à la conversation, à l'écoute, n'était pas un homme plein de lui-même, n'avait pas d'arrogance, et avait une certaine curiosité envers autrui, ou envers ceux qui ne pensaient pas comme lui. Je ne suis pas sûr que cette qualité soit celle de ceux qui s'en réclament aujourd'hui. Qui semble un peu enflé, en quelque sorte. Et c'est dommage. Par ailleurs, il y a un réalisme chez Ricoeur incontestable, jusqu'à un certain point, notamment le réalisme de savoir que tout pouvoir est injuste, enfin qu'il y a une injustice dans tout pouvoir, il y a une absence de symétrie entre celui qui commande et celui qui obéit, et qu'en quelque sorte, il va s'échapper du pouvoir par la compassion, précisément. La compassion, la pitié. Donc, finalement, même si c'est approché des zones brûlantes de du feu politique, il ne pouvait pas se jeter dans ce brasier politique. Il était, peut-être trop sensible, peut-être trop épris d'éthique, ne pouvant pas se résoudre à ce qu'il y a de machiavélien dans l'exercice du pouvoir, et peut-être aussi une conscience de la fragilité du pouvoir, de sa propre fragilité, s'il avait eu le pouvoir, qui l'empêche peut-être d'aller jusqu'au bout, quoi. Moi, je suis... Enfin, très sensible à cette dimension chez Ricoeur du serviteur souffrant. Voilà, cette vision non pas théocratique du Dieu tout-puissant, mais d'un Dieu qui n'a pas beaucoup d'autres choses à donner que de l'amour, quoi. Donc finalement, pour moi, et ce n'est pas du tout une critique, mais je ne peux pas faire de Ricoeur un penseur politique, et c'est très élogieux pour lui, parce que les penseurs du politique sont généralement des gens peu recommandables. Et c'était quelqu'un de trop bien pour faire de la politique. Et en ce sens, je trouve que ceux qui s'en réclament ne vont pas vraiment au bout du propos. Ce sont des butineurs, peut-être. Nous avons des politiques qui au moins butinent, ce qui est pas mal, parce qu'on en avait avant qui ne butinaient pas du tout. et il butine, enfin il fait pas de miel. Mais c'est déjà bien qu'il sache qu'il y a eu à un moment donné Paul Ricoeur et qu'il ait pu faire des notes en bas des pages des Paul Ricoeur. Je trouve ça exceptionnel et on peut s'en réjouir. Mais tu ne m'empêcheras pas un certain scepticisme quant à la profondeur ou à la rigueur du propos. Voilà. Mais je suis peut-être moins optimiste que toi, étant plus politique.
Bien, je ne sais pas du tout. J'ai laissé ma montre, je l'ai fermée, en fait, je n'ai pas de montre. Il
Il est à peu près 9h30, mais...
C'est ça, Marc.
Tu peux nous dire des choses sur ton programme, précisément. Parle-nous du fonds Ricoeur, puisqu'on en...
Ricoeur. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait, de la même manière qu'il y a des cercles en ce moment autour de Ricoeur qui travaillent sur sa philosophie de l'imaginaire, de l'imagination, comme potentiel, comme exploration, comme critique, l'utopie, l'idéologie, enfin, tu as entendu cette session que nous avons faite l'an dernier. J'aimerais bien qu'il y ait en effet un atelier ricœurien qui s'attaque aux politiques, à proprement parler, cher Ricœur. C'est vrai qu'il est, tu as raison, qu'il est dispersé, qu'il est explosé, qu'il n'est apparemment pas rassemblé dans une cohérence de système, mais qui, à mon avis, n'en est pas moins extrêmement présente. Mais en même temps, j'entends ce que tu dis, et c'est vrai que c'est aussi chacun de nous a ses limites. On a sa vie, on a son contexte, c'est certain. Ton existence est une existence politique profondément vouée au sens fort du terme, au sens très positif du terme. Mais simplement, j'aimerais te rendre attentif. J'aimerais bien que tu lises quelques textes de Ricoeur que je te recommande.
Oui, non, mais je peux butiner moi aussi.
Après tout.
mais disons, tu sais. On a les pensées de nos circonstances, hein, et voilà, on ne peut pas reprocher à Ricoeur de n'avoir pas pris le maquis, il était dans un camp. Enfin, on n'a pas la même vision du monde selon qu'on est ici ou là. Je crois qu'il a bien utilisé son temps de méditation, et qu'il en est sorti une pensée subtile. À laquelle je dois avouer que je n'étais pas sensible dans ma jeunesse, et que tu es l'un de ceux qui m'a fait découvrir ce philosophe qui ne veut pas se réduire à la croyance, mais qui laisse une place à la croyance, voilà, qui laisse une place à la foi et qui ne choisit pas la foi contre la raison. Alors c'est là aussi, alors là une différence de fond, mais là nous ne serions plus à l'oratoire, mais dans un séminaire, dans un amphithéâtre, c'est qu'au fond, le postulat de Paul Ricoeur, comme le tien, c'est au début est le logos, au début est l'écriture. Ce n'est pas le mien.
Non, c'est pas le mien non plus.
Ah bah, tu m'étonnes. Moi, je dis au début est la techné, c'est-à-dire au début est l'outil, et l'écriture est un outil tardif, mais qui vient après beaucoup de travail sur la matière, sur le symbolique, etc. Mais l'écriture n'est pas pour moi le point de départ. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas être forcément dans le même monde. En tout cas, dans le monde du logos, c'est-à-dire au fond du langage, de la linguistique, du symbole narratif, eh bien, il est vrai que Ricoeur est le tout premier. Et je te remercie de me l'avoir fait connaître.
Voilà. Merci.
Tu t'applaudis toi-même comme dans les
millions sur le vitri. C'est juste ce que tu viens de dire.
Donc, grand merci à tous les deux. Vraiment, merci, Monsieur Debré. Merci, Olivier, pour vos idées, de prendre la peine de les transmettre dans des livres, mais aussi de venir en parler, en discuter entre vous. Et puis merci pour cette formation finalement que vous nous apportez, parce qu'au-delà des idées, il y a une façon peut-être, voilà, on est dans une sorte d'atelier où on vous voit forger, et ça c'est vraiment non seulement passionnant, mais ça nous forme. Donc merci beaucoup, merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté ce soir, et merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cette soirée.
Et merci à l'oratoire de nous avoir accueillis, et merci à Marc Pernaud pour son accueil. Merci.